Ma première réaction, c'est une réaction d'émotion et de joie d'avoir participé à quelque chose qui est mondial et qui correspond vraiment largement à toutes les personnes qui ont connu de près ou de loin Mère Teresa. C'est une unanimité. Elle est une lumière pour un nombre très très important de personnes et elle n'a pas d'ennemis. Je veux dire, on n'était pas dans un meeting, on n'était pas ce matin dans des débats idéologiques, on n'était pas dans la persuasion, on n'était pas dans la catéchèse, on était dans l'attestation. Cette femme, telle qu'elle est, a porté un témoignage qui demeure. Et je communie à ce témoignage.
Surtout que Mère Teresa, vous l'avez connue, vous-même personnellement. Quelle est l'image que vous retenez de cette femme ?
Elle était petite, comme on sait, bon. Et elle vous prenait les mains avec beaucoup d'affection et en même temps, c'était pas gênant, je veux dire. Elle vous prenait pas comme une grand-mère pour son petit-fils, quoi. Elle vous prenait les mains en adulte, comme une sœur aînée. Et il y avait une sorte d'onde, je ne sais pas comment dire ça, qui se dégageait d'elle. De lumière, d'abord, je me souviens de ça. Et un regard profondément lumineux, un visage très ouvert. Et puis, comme si un encouragement allait jusqu'au bout de notre vocation. J'étais personnellement à 2 ans de l'ordination de prêtre. Et elle nous avait encouragés, mes frères en communauté et moi-même, à aller jusqu'au bout, à être, comme elle nous disait, des icônes du Christ dans les rues de cette grande ville de Marseille. Alors, j'ai toujours gardé et nourri un souvenir très très précis de cette rencontre qui était le temps d'un repas, d'un café, puis le lendemain de la messe et puis d'un partage avec les jeunes, avec elle. Voilà, à la messe, je me souviens encore de son recueillement. Elle était abîmée dans la prière. Alors, il aurait pu y avoir un tremblement de terre. Il n'y avait plus que l'Eucharistie, quoi.
C'est très étonnant ce que vous dites, surtout lorsqu'on sait que Mère Teresa a vécu une nuit de la foi, une sécheresse spirituelle très forte de l'ordre du martyr. Elle parlait de son âme comme étant un bloc de glace. Et toujours, malgré tout, ce sourire, cette vie donnée aux autres, des heures abîmées en prière devant le Saint-Sacrement. Est-ce que c'est paradoxal ?
Non, je crois au contraire que c'est ce que le monde attend aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont profondément solidaires de l'humanité et de l'humanité la plus souffrante, là où se jouent les questions de fond, le mystère du mal, le mystère du rejet, le mystère du péché aussi. Et cette femme n'a pas peur d'aller toucher ces lieux-là et ces personnes-là. Et en même temps, elle vit ce retrait de Dieu. Elle vit cette espèce d'absence de Dieu qui est le fait de tant et tant de personnes, quoi. C'est pas du tout paradoxal. Je dirais au contraire que c'est son chemin à elle, c'est le chemin du Fils de Dieu sur la terre. Et elle a dit, je crois, un moment... Si je dois être sainte un jour, ça c'est l'humour de Mère Teresa, je serai la sainte des profondeurs. Et elle ne sera pas la sainte des hauteurs, pas la sainte des choses très visibles, la sainte des profondeurs, comme la sainte des ténèbres, je ne sais pas comment dire ça. Vous savez comme moi que les hindous l'ont déjà canonisée depuis longtemps. Elle figure dans les temples, un petit peu comme une sorte de, je n'ai pas les mots parce que je ne suis pas hindou, mais une sorte de manifestation divine quoi, pour eux, bon, de la mer. Et elle est vénérée là-bas comme une véritable émanation divine. Bon, je parle de l'hindouisme. Et elle n'appartient pas qu'à l'Église, voilà. Elle appartient vraiment au Christ et du coup, elle appartient au monde entier. Je crois pouvoir dire ça. C'est pas paradoxal. Personnellement, je regrette un peu la liberté qui a été prise de publier toutes ces notes. Moi-même, je n'ai pas voulu les lire. J'attends de ne pas les lire par curiosité. Donc pour le moment, je n'ai pas ouvert ce livre parce que je trouve qu'il y a aussi des choses qui auraient dû rester sans doute dans la discrétion de l'accompagnement spirituel. Ceci étant, maintenant qu'elle est au ciel, elle voit les choses autrement, mais elle avait demandé qu'on ne publie pas ces notes-là. Voilà. Donc en tout cas, on sait maintenant qu'elle a connu une nuit de la foi qui correspond à la nuit de la petite Thérèse, mais pour Mère Teresa, ça a duré 50 ans ou 40, je ne sais pas. Sauf qu'elle a eu aussi une grande certitude sur sa vocation ou son second appel. Et là, il a eu des confirmations très, très fortes. Donc, pour chacun de nous, il ne faut pas renier dans les moments d'aridité ou des moments de combat spirituel. Il ne faut pas renier ce qui a été vu dans la lumière, même une fois. Et Mère Teresa n'a jamais renié ce qu'elle avait vu dans la lumière. Elle a été fidèle à l'appel de Dieu dans sa vie, mais qui a fait qu'elle se tient aux côtés de la plus grande majorité de nos contemporains, pour qui la foi, il faut bien le dire, est une énigme. Ils aimeraient croire quelquefois, mais beaucoup de gens ne pensent pas que Dieu est vraiment vivant, ne pensent pas que Dieu est un être personnel de relation, ne pensent pas qu'il fait alliance avec nous. Toutes ces choses-là sont inconnues pour beaucoup de gens. Ben, Mère Teresa, du coup, a vécu profondément en solidarité tout en étant profondément fille de l'Église. De ce point de vue-là, je trouve qu'elle est prophétique pour notre époque.
Du coup, Mère Teresa, prophétique pour notre époque, qui est canonisée à dessein l'année de la miséricorde, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ben, ça m'inspire d'abord une sorte de confusion dans ma propre vie, parce que je me dis, comme évêque, je parle de ces choses-là, mais est-ce que je les vis même un tout petit peu, quoi ? Je suis renvoyé à l'authenticité de ma vie, quoi. Et même les gens dans la rue, comment je les regarde, je dois dire que je suis en train de me dire, il faut que tu commences aussi à te convertir, quoi. Voilà, j'en suis là, mais ce n'est pas du tout triste. C'est plutôt un élan que je trouve ici, mais c'est un élan exigeant. La miséricorde ne se paye pas de mots. La miséricorde se précipite vers la misère, mais n'est pas d'abord un discours. Hein. Elle est une action divine par l'homme, par les hommes, tant qu'il s'agit d'œuvres de miséricorde. Mère Teresa, de ce point de vue-là, nous montre qu'il y aura toujours trop à faire. Et je me dis, est-ce que le peu qui m'est donné de faire, est-ce que je le fais, quoi ? Voilà, enfin, donc je veux dire, j'entendais le pape ce matin présider la messe avec tant d'humilité, tant de simplicité. Je me reconnais de plus en plus dans cette discrétion et ce silence. Mère Teresa, c'est cette femme qui a prié longtemps en silence. Le silence, c'est de l'amour, disait-elle. L'amour, c'est même sans la foi, pour le moment, c'est déjà une aspiration à Dieu. Bon, je crois plus que jamais que le monde a besoin de gens qui soient vrais, quoi, authentiques, qui ne se payent pas de mots, quoi. Et de ce point de vue-là, la miséricorde, ce n'est pas d'abord du discours. La seule chose que je peux attester, c'est qu'il m'est fait miséricorde, il nous est fait miséricorde infiniment par Dieu. Du coup, nous ne pouvons pas rester simplement égoïstement à recevoir cette miséricorde pour nous. Et de ce point de vue-là, très concrètement, chaque jour, il y a toujours des occasions. Voilà. Et donc, il suffit d'être un petit peu ancré dans la prière pour ne pas être aveugle sur les mains tendues que Dieu nous montre à travers les autres.